C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 3 mars et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1 FM. Partir en vacances, voyager, déménager, fuir, mourir, autant de termes qui peuvent être rapprochés du mot partir. Partir, c'est justement le titre d'un essai à la fois sociologique, historique, philosophique, qui est sorti il y a quelques jours aux éditions du Parapluie Jaune et qui a été écrit à quatre mains par Colette Barou-Chabanol, journaliste en presse écrite spécialisée en sciences humaines, et Yvette Rodalec, docteur S lettres, qui a enseigné la littérature à Brest et également autrice. Yvette Rodalec, qu'on reçoit à l'instant. Bonsoir Yvette.
Bonsoir.
Avant de parler du contenu de cet essai, je voulais revenir un peu sur le processus de l'écriture. Vous l'expliquez en introduction du livre, mais est-ce que vous pourriez revenir sur la genèse de la création de cet essai ?
Oui, bien sûr. En fait, ce livre, dans le choix d'un livre, il y a toujours une part d'un peu irrationnelle, mais là, il y avait une part aussi de, j'ai envie de dire, concrète. C'est que mon amie Colette Barou-Chabanol, co-autrice, a quitté, parce qu'elle était en désaccord avec le directeur de la rédaction, son poste de rédactrice en chef d'une revue, d'une grande association. Je faisais partie du comité de rédaction et je l'ai suivie, comme d'autres, pour des raisons éthiques, pour des raisons morales, des raisons intellectuelles. Et puis, elle me dit, tu n'as pas envie d'écrire un livre avec moi. Je dis, pourquoi pas. Mais je dis, t'as pensé à un sujet? Elle me dit, oui, je pensais. Je dis, tu ne dis rien. On réfléchit, et puis voilà, on s'est retrouvés à Paris, dans les jardins du Palais Royal. Moi, j'avais écrit sur mon petit carnet « L'appartance ». Et elle me dit, moi, c'est partir qui m'intéresserait. C'est-à-dire que le hasard, voilà, a fait que nous sommes partis sur le sujet. Donc, nous avons écrit ce livre, si vous voulez, on dit à quatre mains, mais j'ai envie de dire à deux voix. Voix VOIX et voix VOIES. C'est-à-dire que nous avons des chemins différents par notre vie, nos expériences, nos professions, mais en même temps, on se retrouve par l'amitié déjà, et puis pour des raisons intellectuelles aussi. Donc on a travaillé un peu au départ, on est parti de ce verbe partir, et on a essayé d'analyser toutes les situations où il pouvait prendre sens, et puis après on a fait des ensembles.
Et justement, pour écrire à deux voix, même sur un sujet qui, au départ, est assez restreint, parce que c'est un mot, un terme, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous raconter?
Alors, comment ça se passe? Déjà, il y a un premier travail qui a été fait, qui m'est revenu d'ailleurs, c'est de travailler sur le mot. Bon, on ne se refait pas. Donc, travailler sur ce mot et sur son étymologie, qui est formidable, puisque c'est à la fois, au départ, partager, et c'est aussi se séparer. Donc, voilà. Et puis, on s'est mis à travailler aussi sur tous les synonymes entre décamper, fuir, se barrer, foutre le camp, etc. Enfin, il y en a mille et un, avec tous les champs lexicaux possibles. Et puis, alors, ce qui est intéressant, il y a les antonymes aussi. Parce que le contraire de partir, de quitter, c'est rester, demeurer. Et on sait que là, il y a quelque chose, un dialogue possible entre celui qui bouge, qui part, et puis celui qui reste. Dans la tradition judéo-chrétienne, entre Abel et Caïn, on sait très bien que l'un a tué l'autre, et celui qui a tué Abel était le sédentaire, qui est devenu errant à son tour. Et puis, en travaillant sur les mots comme ça, il y a aussi le mot « repartir », qui est extraordinaire, parce qu'il dit à la fois « partir à nouveau », réitération, mais il dit aussi « revenir à l'endroit » d'où l'on est parti. Donc, voyez, il y a plein. Donc, on a travaillé sur ça, puis on a fait un peu comme à la pêche à la crevette, avec un avenot. On a analysé toutes les situations, comme je disais tout à l'heure, où le verbe partir prenait sens, et puis ça a dégagé des ensembles. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce que tu as envie de faire, toi? Ben, moi, je fais ça. En fait, on est parti selon nos goûts. Pour analyser, pour travailler, bien sûr, avec des navettes, en se tenant au courant, et voilà.
Et au cœur de votre ouvrage, vous faites de nombreuses reprises références au Covid, à la crise sanitaire qu'on vit, qui a un impact direct sur le fait de partir dans tous les sens du mot, ou presque. Entre le moment où vous avez eu l'idée de ce livre, donc dans le courant d'été 2019,
avant
cette crise, du coup, et aujourd'hui, quelle a été l'évolution, quels ont été les changements dus au Covid-19?
Alors, ce qui est intéressant, effectivement, comme vous le rappelez, quand on a commencé ce livre, on ne pensait pas à la pandémie, hein, c'était très loin de nous, et on avait pratiquement terminé le livre au début du premier confinement. Mais on ne pouvait pas ne pas parler, parce que ça a impacté bien des aspects. Déjà, le fait de partir, c'est-à-dire de sortir de chez soi, le fait d'aller en voyage, même de faire du tourisme, hein, puisque c'est un chapitre que l'on a abordé. Et puis, ça a impacté aussi de manière très forte, je crois, notre rapport à la mort. Je pense que c'est ça qui va modifier beaucoup de choses à l'avenir, parce que au départ, eh bien, on a laissé mourir seul des proches, sans une main, sans une présence, sans rien, sans même voir le corps. Bon, après, les choses ont évolué. On a laissé des personnes âgées seules aussi. Donc, il y a eu, pour notre vie, si vous voulez, notre rapport à la mort, quelque chose, je crois, qui laissera des traces. Et puis, il y a eu aussi le problème des migrants. On a parlé du confinement et on nous rebattait les oreilles avec le confinement, dans l'oubli total de ce que vivent certains migrants, puisqu'on a même ce mot maintenant, on dit plus les immigrés ou les émigrés, c'est les migrants. Hein, c'est une situation flottante, malheureusement c'est un vilain mot de l'utiliser, mais voilà. Et eux, ils sont confinés aussi. Mais visiblement, bon, non. Par contre, nous, nos sociétés occidentales impactées par la Covid, oh là là, c'était quelque chose de terrible. Et moi, ça m'a choquée. Ça m'a choquée parce qu'on voit bien à ce moment-là dans quel système on est.
Oui, donc le Covid vraiment au cœur de toutes les thématiques liées au fait de partir. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que cet essai, c'est le premier ouvrage qui sort aux éditions du Parapluie Jaune, qui se trouve être les éditions de la librairie Dialogue. C'était une fierté, un honneur pour vous?
Oui, tout à fait. D'abord, je suis très attachée à cette librairie. Je m'honore d'avoir été une des premières clientes à y rentrer il y a fort longtemps. J'ai publié un livre aux éditions Dialogue les éditions Dialogue étaient attachées à la librairie. Et je m'honore d'avoir publié dans cette maison d'édition qui a eu le courage de publier le livre d'Irène Frachon sur le Médiator. Et puis, quand il y a eu la création du Parapluie Jaune, eh ben, je trouve que c'est formidable aussi, parce que j'ai des véritables attaches avec cette librairie et beaucoup d'amitié pour les gens qui y travaillent. Voilà.
Et donc pour en arriver au livre à ces différents chapitres, dès les premières pages, si je puis dire, vous pensez le mot partir en lien avec la notion de fuite. Et à un moment, vous évoquez notamment le roman de Delphine de Vigan, Les heures souterraines, où le personnage principal subit des violences morales au travail. Et je voulais revenir sur un passage qui m'a marqué, que je vais vous lire.
Oui.
Enfin, deux passages en vérité qui m'ont marqué. Choisir délibérément de changer de travail, de métier et en même temps de lieu de vie pour échapper au pire est une situation très contemporaine et bien souvent dramatique. Le burn-out et les cas de harcèlement sont parfois suffisamment pesants pour inciter les victimes, lorsqu'elles le peuvent, à s'affranchir des asservissements de la vie en entreprise et de la course aux performances. Ils sont nombreux à prendre alors la décision de tout quitter. Et donc là, il y a le passage où vous parlez donc du roman de Delphine de Vigan. Cadre, elle y est mise au placard, humiliée, bannie et finalement brisée. Après un long enfer peuplé d'insomnie, de nausées et de souffrances, elle va crier pouce et se retirer du jeu de massacre dont elle est la cible. Sa vie va basculer dans un refus fier et désespéré de se voir malmenée davantage. Sa seule et unique victoire sera de se soustraire à l'inhumanité et de lâcher prise.
Tout à fait.
Donc un passage qui est assez fort. aborder ce cas, donc, que vous le disiez dans le livre, qui est assez fréquent en entreprise, c'est une manière de montrer que la fuite ne doit pas être forcément synonyme de honte ou de lâcheté.
Tout à fait. Alors ça, c'est un chapitre qu'à partir pour survivre, en fait, hein, vivre ou survivre, c'est sauf qui peut la vie, dans certains cas. Là, c'est Colette Barou-Chabanol qui a rédigé ce chapitre. Et il est évident que, il y a des moments dans la vie où on ne peut pas tout accepter. On ne peut pas tout accepter, tout subir, donc il faut faire un choix. Et parfois c'est douloureux, hein, c'est particulièrement douloureux, mais bon, c'est pareil dans le cas des violences conjugales. On sait qu'elles ont été exponentielles pendant la crise du Covid et que bon, certaines femmes ne peuvent pas partir pour mille et une raisons et nul n'a jugé surtout. Mais quand elles décident de partir, on peut être choqué aussi que ce soit elles qui quittent le domicile. Maintenant, la loi va modifier un peu les choses et que le tortionnaire, lui, demeure en place. Hein, voilà. Mais les choses sont en train de changer. Donc, c'est vrai que le cas que vous évoquez de harcèlement au travail, bon, il y en a plein. Ça touche les femmes, les hommes, comme le harcèlement sexuel aussi. Bon, en ce moment, il y a énormément de... Hein, et parfois, partir, ce serait pouvoir dire aussi. Maintenant, la parole se libère, mais pendant un moment, la parole était enfouie au fond de la gorge, et voilà. Et puis, parfois, on n'a pas la possibilité de partir parce que on n'a pas d'autre choix. On est obligé de rester, et j'ai envie de dire, parfois, jusqu'à ce que mort s'en suive, et c'est intolérable.
Et là, à l'instant, vous parliez donc des violences faites aux femmes. Oui. Justement, je voulais y revenir parce que donc dans cet essai, vous parlez du fait de partir dans tous les sens possibles, mais vous allez plus loin, parfois beaucoup plus loin, en mettant en lumière certains sujets qui semblent vous tenir à cœur. Et donc justement, il y a un extrait où vous parlez des féminicides que je voudrais lire. Si laisser vivre l'autre est une preuve d'amour, c'est bien cette preuve qui est constamment remise en cause par ceux pour qui l'amour est une question de pouvoir et de domination. Et si je t'aime, prends garde à toi. Les féminicides sont la sinistre illustration de ces constatations.
Tout à fait.
Donc là, vous évoquez les féminicides, avant même les féminicides, les violences que subissent les femmes, ce qu'on appelle souvent les crimes passionnels à défaut.
Oui, mais ça, c'est joli, c'est mettre de jolis mots autour de vilaines choses.
Et justement, je me demandais, en parler, c'est un acte féministe de votre part ?
Oui, je pense que c'est un acte féministe. J'ai toujours. Parce que être féministe, être femme, on l'est. Je crois que quand on est femme, il y a des évidences que l'on doit assumer. Mais être féministe, c'est déjà avoir une position politique aussi, j'ai envie de dire. Politique au sens de place dans la ville, et voilà. Donc, effectivement, on peut dire que c'est un livre aussi. On écrit toujours de là où l'on est. Hein.
Et je voulais revenir sur un autre extrait encore. Les migrations font partie de l'histoire. Elles sont, comme le souligne Patrick Chamoiseau, un spasme de nos histoires, une convulsion autant qu'une crispation, un de ces moments où l'humanité même peut être mise en question, où l'identité l'est également. Depuis des temps immémoriaux, l'homme est parti voir ce qu'il avait au bout de l'horizon, pour vérifier que l'on ne sombrait pas dans le vide, que des mondes existaient ailleurs, des terres à découvrir, des régions à conquérir, des richesses à exploiter, des territoires à peupler, des paroles à semer, au nom de bonnes ou de mauvaises causes, des tombeaux à délivrer par des croisades où se croisaient surtout les armes. Pour de bonnes ou mauvaises causes, on a forcé au départ, déplacé des populations avec parfois ce que cela supposait de spoliation, d'exploitation, de discrimination et d'humiliation. Donc là, le chapitre en question, c'est un chapitre où vous retracez un peu l'histoire de la partance, comme vous l'appelez. Oui. Donc les êtres humains qui, au départ, étaient nomades, puis sont devenus sédentaires, en tout cas pour une partie, mais aussi les migrations forcées, hein, donc là, on en parlait, les esclaves transportés dans des cales de bateaux, les juifs emmenés comme du bétail dans les trains. C'était essentiel pour vous de donner ce contexte historique au lecteur.
Tout à fait, parce que ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, à partir du moment où on est descendu de l'arbre, on s'est mis en mouvement pour aller voir plus loin, avec toutes les conséquences positives, mais aussi négatives que cela supposait. Et puis, on ne peut pas, quand on regarde l'histoire, et encore, on ne se voulait pas exhaustif, mais c'est vrai qu'on a forcé des gens à partir. On n'a pas choisi d'être esclave. On n'a pas choisi d'aller à Auschwitz, d'aller à Ravensbrück. Hein. Donc il y a aussi ce moment, ces convulsions de l'histoire dont parle Chamoiseau. Et puis il y a actuellement ce que nous voyons, c'est-à-dire des êtres qui quittent leur pays parce que c'est la guerre, parce que des raisons économiques, des raisons climatiques aussi, ils partent et ils espèrent. Alors certains n'arriveront jamais. Certains n'arriveront jamais, et justement aussi, là aussi, leur redonner une identité. Hein, c'est un peu comme les morts pendant le Covid. Il y a eu un moment donné, on nous donnait des chiffres. Mais ça veut dire quoi, ça, des chiffres? Mais ce sont des vies humaines derrière. Hein. Donc je crois que il est important, quand on évoque le thème de la partance, de passer en revue tous ces aspects-là. Ce sont des êtres qui ont choisi qui ont choisi. Parfois, ils n'ont pas le choix. C'est ça, ou mourir. Et d'ailleurs, certains vont en mourir aussi pendant la traversée. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a les articles 13 et 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme disent que tout être humain a le droit, lorsqu'il se sent menacé, de quitter son pays, et que tout être humain aussi doit être accueilli, que l'asile, hein. Or, exil et asile sont proches à l'oreille, mais dans la réalité, ça a coincé pas mal, hein. Et eux aussi savent ce que c'est que le confinement. Et les femmes savent aussi ce que c'est que d'être, soit elles restent dans le pays d'origine. Certaines femmes, ce sont les frères, les maris qui partent, ou les pères, elles sont menacées aussi parce qu'elles restent seules. Elles n'ont plus de protection d'une certaine manière. Et si elles partent elles aussi, elles subissent des violences. Des passeurs, des violences dans les camps aussi. Donc il faut voir que la situation est complexe, et pour les hommes bien sûr, mais aussi pour les femmes.
Et tout de suite, on va écouter le titre Shelter de Gloria. sur le 101.1 FM dans l'émission C'est vous qui le dites. Et on est toujours avec Yvette Rodalec pour parler de l'essai qu'elle a coécrit avec Colette Varouchabanol et qui s'intitule Partir. Alors, en fait, chacun de vos chapitres est un peu thématique. Hein, ça va sur une notion du mot partir. Un de vos chapitres parle du fait de partir en voyage, qui semble être un peu l'apanage de nombreux auteurs, philosophes, intellectuels. Et dans ce chapitre, vous parlez notamment de l'importance de la marche pour mieux réfléchir, pour mieux penser. Donc la marche comme manière de partir en voyage, en fait, c'est quelque chose qui vous touche personnellement, qui est vrai pour vous ?
Ah oui, tout à fait. Moi, je suis une marcheuse depuis que je suis petite fille. Et j'avais une famille qui était une famille de marcheurs. Mon père, nous n'avions pas de voiture, et donc on marchait. Et mon père me disait une phrase que j'aime beaucoup, on regarde avec les pieds. Et c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup marcher, en ville, partout. C'est très important. Et justement, c'est bien de rappeler ça, parce que dans le grand chapitre qui est consacré au voyage, ce que j'ai voulu montrer, c'est que le voyage, et Colette a pris le chapitre sur le tourisme et l'entre-soi, c'est-à-dire, je pense à une phrase de Sylvain Tesson qui dit « voyage organisé », les deux mots, c'est un oxymore, les deux mots s'opposent. Et je crois que c'est ça, nos chapitres ont voulu montrer ça. Que le tourisme, ce n'est pas voyager que d'être sur un bateau. On n'est pas jugeante, hein. Il ne s'agit pas de juger, mais ce n'est pas voyager. Voyager, c'est l'idée du mouvement, d'aller vers l'autre, de quitter l'entre-soi, d'aller vers ailleurs, vers l'autre, et peut-être aussi vers soi-même. Il y a une phrase que j'aime beaucoup du film d'Arnaud Desplechin, Un conte de Noël. C'est un des personnages qui dit « Chacun est à soi-même le plus lointain ». Je crois qu'il y a dans le voyage ce souci d'aller peut-être vers l'autre, mais aussi vers soi-même.
Oui, un aspect d'introspection.
Tout à fait, tout à fait.
Et justement, donc le chapitre d'après, c'est le chapitre sur le tourisme de Metz, celui qui détruit le plaisir de partir, se partir pour de faux, comme vous l'appelez,
voilà.
Ou ceux qui peuvent partir, et j'entends par là qui ont les moyens financiers suffisants, restent entre eux, vous le disiez à l'instant, et sont hermétiques aux rencontres humaines, aux surprises, aux découvertes. Et avant de continuer, je voulais juste en lire un extrait, justement. Le monde entier devient la scène de départ qui n'en ont que le nom. Puisque tous les moyens sont déployés par les tours opérateurs pour que le mystère et le risque soient absents du voyage. L'heure est à la sécurité plus qu'aux écueils de la découverte. Chaque société civilisée est en marche vers l'assurance tout risque. On ne part plus pour rencontrer les autres ni admirer des paysages inexplorés, mais pour vivre à l'abri d'un univers rassurant dans l'entre-soi. Donc c'est exactement les mots que vous avez.
Victor Segalène, dans un essai posthume qui s'appelle Traité de l'exotisme, disait que c'était les proxénètes du divers. C'est-à-dire que justement, on ne cherche pas à aller vers l'autre. Moi, je sais que je suis une amoureuse de Venise. Et je me rappelle, une fois, nous étions... on venait de visiter la Biennale, on était en train de prendre un pot dans les jardins de Santa Elena, et tout d'un coup, on a vu un immeuble passer devant nous, un bateau de croisière, et qui avait un nom admirable, il s'appelait Poesia. Donc il y a des moments dans la vie comme ça, où voilà. Donc ce n'est pas voyager, ça. C'est prendre un moyen de transport et bénéficier d'avantages. Chacun fait comme il l'entend, mais ce n'est pas ça, voyager. Ce n'est pas ça.
Et en plus de cet aspect-là, il y a l'aspect du tourisme de masse qui détruit l'environnement, avec notamment les allers-retours un peu incessants des avions, qui, on le sait aujourd'hui, sont quand même
tout à fait.
Pas très très bons pour l'écologie. Inclure la cause écologique dans votre essai, justement, c'était important pour vous ?
Tout à fait, c'était très important, parce que ça fait partie aussi, je crois que c'est un engagement aussi humain. Je crois qu'on a envie aussi que cette planète... C'est ça qui est terrible, c'est que l'homme est capable de détruire tout, mais il est le seul qui serait capable de réparer, s'il est encore temps de réparer. Hein. Mais c'est vrai que beaucoup de sites sont détruits par justement ce tourisme intempestif. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont.
Et dans un autre chapitre, vous parlez de ceux qui sont partis, qui sont morts, en questionnant le fait même que la mort, c'est l'acte de partir ou pas. Et au cœur de ces réflexions, vous prenez notamment position dans le débat de l'euthanasie, du suicide assisté. Et là encore, je voulais vous lire un extrait. Sachant que l'extrait, il parle du cas de Vincent Lambert.
C'est ça.
Donc, qui a quand même été très, très médiatisé ces dernières années.
Et qui c'est un peu choquant, d'ailleurs.
Oui. Qu'en est-il, là, du respect de la vie ? De quelle vie s'agit-il ? On parla de meurtre avec préméditation, quand l'arrêt des soins et la sédation furent engagés en 2019. Quel sens cela a-t-il ? Ne confondons-nous pas avec les thanatocrates nazis. Donc là, il y a une vraie prise de position.
Ça a été dit, hein. Il y a des gens qui ont dit que c'était bon, comme on avait accusé aussi Simone Veil quand elle a fait la loi sur l'IVG d'être une tortionnaire nazie, hein, aussi. Voilà. Donc ce sont des gens qui ne mesurent pas ce qu'ils disent.
Et donc là, à travers ce chapitre-là, il y a quand même une vraie prise de position. Pourquoi prendre position sur ce sujet-là et...
En fait, c'est une prise de position et en même temps, c'est aussi c'est interroger. Ce qu'on a voulu aussi, on n'a pas forcément de réponse à apporter, mais on pose des questions, on interroge. Voilà. Hein. Vous savez, il y a une très belle phrase du philosophe Pontalis, J.B. Pontalis, qui disait « Nul ne peut s'arranger avec la mort, mais chacun... » essayer de s'arranger avec les morts. Et je crois que la réflexion sur l'euthanasie, c'est une réflexion s'impose aussi, qui s'impose, puisque chacun est maître de sa vie. Il paraît que c'est notre seule liberté de pouvoir décider. Donc la question qui se pose, c'est quand plus rien n'est possible, est-ce que c'est vivre encore ? Est-ce que... Voilà, c'est ça. Et c'est une question qu'on se pose. Bon, moi, j'ai eu un accident de santé assez important. Et c'est vrai que la question demeure. Moi, je me dis que vivre, ce n'est pas ça. Il y a un moment, j'évoque Chantal Sébir. Elle dit, mais moi, j'ai toujours été dans la vie. Je me suis toujours tenue droite. J'ai foncé. Est-ce que moi, ça va être moi encore ? Est-ce que c'est moi encore là sur mon lit de souffrance ? Alors naturellement, elle a choisi le suicide assisté. Je trouve que on ne peut pas légiférer sur la mort. De toute façon, je crois que c'est difficile. Et il y a une loi. Il y a la loi Leonetti. Est-elle appliquée ? Mais elle est là. Elle existe, la loi. Vous savez, quand le président de la République, quand on lui a demandé de donner l'autorisation, hein, que ce soit chez M. Chirac ou M. Macron, il a dit « je ne peux pas me mettre au-dessus des lois ». Et il faut le comprendre aussi. Hein. Mais la loi Leonetti-Claeys existe.
Et enfin, si vous ne deviez garder qu'une seule définition de mot partir, un seul sens, lequel vous voudriez garder ?
De partir, le seul sens que je voudrais... Oh, c'est une question piège, ça. Je savais bien qu'à la fin, j'aurais une question piège. Je ne sais pas. Je crois que partir, pour moi, quand même, ce qui mène ma vie, je crois, parce que ce n'est pas la mort qui donne sens à la vie, mais la vie, je crois que partir, pour moi, c'est tout ce qui renvoie au monde de l'art et de la création. Tout ce que c'est un des derniers chapitres du livre, tout ce qui permet finalement que l'on soit immobilisé dans un lit de douleur, comme l'a été Frida Kahlo ou Joé Bousquet, que l'on soit empêché de vivre emprisonné, tout ce que permet l'art et qui permet de s'évader justement toujours. Et ça, c'est pour moi fondamental. Et aussi, l'art permet parfois de lutter contre tout ce qui oppresse. Dût-on y laisser sa vie ?
Oui, donc partir en lien avec l'imagination, avec
l'imagination, tout ce qui finalement permet peut-être de partir dans la vie réelle et concrète après. Parce qu'il y a dans la littérature et dans l'art quelque chose de fondamental, ça donne une force intérieure. Et la force intérieure qui nous rend d'une certaine manière inaccessible. On peut tout faire, on peut tout empêcher chez un être humain, mais on ne peut pas l'empêcher de rêver et d'imaginer, et du moins pas encore.
On espère que ça durera comme ça. Merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir accueilli et bonne continuation.
C'était donc Yvette Rodalec, co-autrice de l'essai intitulé « Partir », écrit donc avec Colette Barouchabanol, sorti il y a quelques jours aux éditions du Parapluie Jaune. Et on écoute tout de suite « Rapture » de Declan McKenna.
First you'll find crap on the TV these days. Now you won't live after such disaster. You're alone, full of smashed up cars, grass hatched in the meadow when you're cracking up. But you're part of the pack, huh? You're part of something bigger than the laws of nature, Mrs. Thatcher. Your cool heart navigates the world we live in with its anger. So scarce from someone you love. Oh, it don't make sense. Your love is never better than the morning after. And Mother Nature's coming at ya. It's rapture in my hair. I've been looking up like I'm already there. Rapture, oh my Lord.
Radio U dans l'émission C'est vous qui le dites. Et on écoute maintenant la chronique radiophonique L'économie autrement, en partenariat avec Ascoria et la CEIS, la saison des expérimentations et innovations solidaires, réalisée par Anthony, volontaire en service civique à RKB. Chez Yvonne, situé au cœur de Moncontour, est un tiers-lieu numérique qui propose des services de coworking et d'aide à l'outil numérique aux professionnels et aux particuliers. Véronique Duche, animatrice au sein du tiers-lieu, et Patrice Hénaf, directeur de Riche S, nous parle de l'aide mise en place face à la digitalisation des services publics.
L'économie autrement, le rendez-vous quotidien de l'économie sociale et solidaire en Bretagne.
Pour aider les gens à la digitalisation vraiment des services publics, nous nous sommes tournés vers une autre association briochine qui est... dont une antenne est à Saint-Brieuc, qui s'appelle Famille Rurale, pour une raison pratique, c'est qu'ils ont des médiateurs numériques. Ce sont des personnes habilitées à venir travailler sur les différentes plateformes des services administratifs en ligne, ce qui a permis de mettre en place donc cette permanence tous les derniers mercredis du mois, le matin, qui a lieu dans une partie privatisée de l'association. Et là, ce sont des personnes vraiment de assez locales pour le moment qui viennent nous voir. Mais au niveau des tranches d'âge, c'est assez intéressant de voir que ça peut être autant des personnes qui ont une petite cinquantaine d'années comme des personnes beaucoup plus âgées. Et les thématiques abordées sont larges. Ça peut être pour travailler la recherche d'emploi, mais ça peut être aussi la caisse de retraite. Beaucoup les comptes Amélie, la sécurité sociale, qui est souvent une question qui apparaît un peu régulièrement.
Patrice Hénaff, directeur de Richesse, le pôle d'économie sociale et solidaire du pays de Saint-Brieuc, et enfant de Moncontour, né à Moncontour, habitant de Moncontour. Sur les problématiques de e-administration, il y avait un vrai enjeu, puisque à partir de 2021, en fait, on passait au tout numérique, c'est-à-dire pour les feuilles d'impôt, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'est là qu'on a senti qu'il y avait un vrai besoin, et puis surtout des peurs hein, de la part des gens de ne pas être en capacité de gérer ça. Donc notre première réaction, ça a été déjà de les accompagner sur les demandes d'urgence. Et après, on s'aperçoit qu'il y avait plein d'ateliers à mettre en place derrière sur ces problématiques de e-administration. Et en même temps, on a embauché pendant plusieurs mois aussi une personne qui était en Master 2 TEF, donc technique de l'enseignement et de la formation, et qui nous a aidé à construire des contenus numériques pour des personnes éloignées du numérique. Donc on a pu expérimenter pendant quelques mois, et qu'on est aujourd'hui en train d'améliorer et de peaufiner en fonction des réalités, des besoins locaux en fait.
Donc clairement, ce que Patrice vient d'expliquer, c'est une formation à destination des plus de 60 ans retraités, complètement gratuite. Et cette fois-ci, c'est chez Yvonne qui sort des murs, vu que la formation se déroule dans des communes qui accueillent. C'est une formation avec un groupe d'une dizaine de personnes, et sur 8 séances, donc 8 semaines, sur 2h30.
Ce reportage a été réalisé par la CorLab. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.
C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U. Et je vous souhaite une très belle soirée sur le 101.1 FM.
Covering my heart in place. Say, if you're gonna be mine. Say, what could be our life? Say, if you're gonna be mine. Or stop this game of God and mine. You flew away from me. Say, when you're gonna be mine. Say, what will be our life. Say, when you're gonna be mine. Say, what will be our life. Say, when you're gonna. Mouse.
Radio U, la radio des enfants. Radio U.
Thank you. Radio U, c'est aussi la radio des animaux.
Das vertrag ich nicht, ich sehe auch nicht mehr rüber bis nach Mexiko.